Chapitre 2. Le cercle vicieux de la croissance. Dépenses collectives et redistribution. La société de consommation ne se caractérise pas seulement par la croissance rapide des dépenses individuelles. Elle s'accompagne aussi de la croissance des dépenses assumées par des tiers, par l'administration surtout, au bénéfice des particuliers et dont certaines visent à réduire l'inégalité de la distribution des ressources. Cette part des dépenses collectives satisfaisant des besoins individuels passe de 13% de la consommation totale en 1959 à 17% en 1965. En 65, la fraction des besoins couverte par des tiers est de 1% pour l'alimentation et le vêtement, subsistance, 13% pour les dépenses de logement, réseau d'équipements de transport et de communication, cadre de vie, 67% dans les domaines de l'enseignement, de la culture, des sports et de la santé, protection et épanouissement de la personne. On observe donc que les dépenses collectives portent plus massivement sur l'homme que sur les biens et équipements matériels mis à sa disposition. De même, les dépenses publiques sont actuellement les plus importantes dans les postes appelés à croître le plus fortement. Mais il est intéressant de noter, avec E. Lille, que c'est précisément dans ce secteur, où la collectivité assume la plus grosse part de dépenses et qu'elle a si fortement développé, que la crise de mai 68 a éclaté. En France, le budget social de la nation redistribue plus de 20% de la production intérieure brute. L'éducation nationale à elle seule absorbe la totalité de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La disparité violente que dénonce Galbraith entre la consommation privée et les dépenses collectives apparaît aussi bien plus spécifique des États-Unis que des pays européens. Mais là n'est pas la question. Le véritable problème est de savoir si ces crédits assurent une égalisation objective des chances sociales. Or, il semble clair que cette redistribution n'a que peu d'effet sur la discrimination sociale à tous les niveaux. Quant à l'inégalité des niveaux de vie, la comparaison de deux enquêtes sur les budgets familiaux faites en 56 et 65 ne met en évidence aucune réduction des écarts. On sait les disparités héréditaires et irréductibles des classes sociales devant l'école, là où jouent d'autres mécanismes plus subtils que les mécanismes économiques, la seule redistribution économique équivaut très largement à renforcer les mécanismes d'inertie culturelle. Taux de scolarisation de 52% à 17 ans, 90% pour les enfants de cadre supérieur, profession libérale et membres du corps enseignant, moins de 40% pour les agriculteurs et ouvriers. Dans le supérieur, chance d'accès pour les garçons de la première catégorie, plus d'un tiers, de 1% à 2% pour ceux de la seconde. Dans le domaine de la santé, les effets redistributifs ne sont pas clairs. Parmi la population active, il pourrait y avoir absence de redistribution, comme si chaque catégorie sociale s'efforçait au minimum de récupérer ses cotisations. Fiscalité et sécurité sociale. Suivons l'argumentation de E. Lille sur ce point. Ouvrez les guillemets. Les consommations collectives croissantes sont financées par le développement de la fiscalité et de la parafiscalité. Au seul titre de la sécurité sociale, le rapport des cotisations sociales à la masse des charges salariales est passé de 23,9% en 59 à 25,9% en 67. La sécurité sociale coûte ainsi aux salariés des entreprises un quart de leurs ressources. Les cotisations sociales dites « des employeurs » pouvant légitimement être considérées comme un prélèvement à la source sur le salaire, tout comme l'impôt forfaitaire de 5%. La masse de ces prélèvements dépasse largement celle qui est opérée au titre de l'impôt sur le revenu. Celui-ci étant progressif alors que les cotisations sociales et le versement forfaitaire sont au total régressifs. L'effet net de la fiscalité et de la parafiscalité directe est régressif. Si l'on admet que la fiscalité indirecte, essentiellement la TVA, est proportionnelle à la consommation, on peut conclure que les impôts directs et indirects et les cotisations sociales acquittées par les ménages et très largement affectées au financement des consommations collectives n'auraient pas, dans leur ensemble, d'effet réducteur d'inégalité ou redistributif. Fermez les guillemets. En ce qui concerne l'efficacité des équipements collectifs, les enquêtes disponibles montrent un fréquent dérapage des intentions des pouvoirs publics. Quand ces équipements sont conçus pour les plus défavorisés, on constate que peu à peu, la clientèle se diversifie, cette ouverture provoquant le rejet affectif, pour des raisons psychologiques plus que financières, des pauvres. Quand les équipements veulent être ouverts à tous, l'élimination des plus faibles se fait dès le départ. l'effort pour l'accès à tous se traduit communément par une ségrégation qui reflète les hiérarchies sociales. Cela tendrait à montrer que dans une société fortement inégalitaire, les actions politiques visant à assurer une égalité formelle d'accès n'ont fait la plupart du temps que redoubler les inégalités. Commission du plan, consommation et mode de vie. Fermez les guillemets. L'inégalité devant la mort reste très grande. Une fois de plus donc, les chiffres absolus n'ont pas de sens. Et l'accroissement des ressources disponibles, feu vert donné sur l'abondance, doit être interprété dans sa logique sociale réelle. La redistribution sociale, l'efficacité des actions publiques en particulier, doivent être remises en question. Doit-on voir, dans cette déviance de la redistribution sociale, dans cette restitution des inégalités sociales par cela même qui devrait les éliminer, une anomalie provisoire due à l'inertie de la structure sociale ? Doit-on au contraire formuler l'hypothèse radicale selon laquelle les mécanismes de redistribution, qui réussissent si bien à préserver les privilèges, sont en fait partie intégrante, éléments tactiques du système de pouvoir, complices en cela du système scolaire et du système électoral ? Il ne sert à rien alors de déplorer l'échec renouvelé d'une politique sociale. Il faut constater au contraire qu'elle remplit parfaitement sa fonction réelle. Malgré certains résultats, l'appréciation de l'effet des transferts, tant pour la redistribution que pour l'orientation des consommations, doit être très nuancée. Si l'effet global des transferts a permis de réduire de moitié l'éventail des revenus finaux, en longue période, la relative stabilité de cette répartition des revenus finaux n'a été acquise qu'au prix d'un très fort accroissement des sommes redistribuées. Les nuisances. Les progrès de l'abondance, c'est-à-dire de la disposition de biens et d'équipements individuels et collectifs toujours plus nombreux, ont pour contrepartie des nuisances toujours plus graves, conséquences du développement industriel et du progrès technique d'une part, des structures mêmes de la consommation d'autre part. Dégradation du cadre collectif par les activités économiques, bruit, pollution de l'air et de l'eau, destruction des sites, perturbation des zones résidentielles par l'implantation de nouveaux équipements, aéroports, autoroutes, etc. L'encombrement automobile a pour conséquence un déficit technique, psychologique, humain, colossal. Qu'importe, puisque le suréquipement infrastructurel nécessaire, les dépenses supplémentaires en essence, les dépenses de soins aux accidentés, etc., tout cela sera quand même comptabilisé comme consommation, c'est-à-dire deviendra, sous le couvert du produit national brut et des statistiques, exposant de croissance et de richesse. L'industrie florissante des eaux minérales sanctionne-t-elle un surcroît réel d'abondance, puisqu'elle ne fait largement que pallier la déficience de l'eau urbaine, etc. On n'en finirait pas de recenser toutes les activités productives et consommatrices qui ne sont que palliatifs aux nuisances internes du système de la croissance. Le surcroît de productivité, une fois atteint un certain seuil, est presque tout entier épongé, dévoré par cette thérapie homéopathique de la croissance par la croissance. Bien entendu, les nuisances culturelles, dues aux effets techniques et culturels de la rationalisation et de la production de masse, sont rigoureusement incalculables. D'ailleurs, les jugements de valeur interdisent ici de définir des critères communs. On ne saurait objectivement caractériser la nuisance d'un ensemble d'habitations sinistres ou d'un mauvais film de série Z comme on peut le faire de la pollution de l'eau. Seul un inspecteur de l'administration, comme ce fut le cas dans un récent congrès, a pu proposer, en même temps qu'un ministre de l'air pur, la protection des populations contre les effets de la presse à sensation et la création d'un délit d'atteinte à l'intelligence. Mais on peut admettre que ces nuisances-là croissent au rythme même de l'abondance. L'obsolescence accélérée des produits et des machines, la destruction de structures anciennes assurant certains besoins, la multiplication des fausses innovations, sans bénéfice sensible pour le mode de vie, tout cela peut être ajouté au bilan. Plus grave peut-être encore que le déclassement des produits et de l'appareillage est le fait, signalé par Lille, que, ouvrez les guillemets, le coût du progrès rapide dans la production des richesses est la mobilité de la main-d'œuvre, et donc l'instabilité de l'emploi. Renouvellement, recyclage des hommes qui a pour résultat des frais sociaux très lourds, mais surtout une hantise générale de l'insécurité. Pour tous, la pression psychologique et sociale de la mobilité, du statut, de la concurrence à tous les niveaux, revenus, prestige, culture, etc., se fait plus lourde. Il faut un temps plus long pour se recréer, se recycler, pour récupérer et compenser l'usure psychologique et nerveuse causée par les nuisances multiples, trajet domicile-travail, surpeuplement, agression et stress continuel. En définitive, le coût majeur de la société de consommation est le sentiment d'insécurité généralisée qu'elle engendre. Fermez les guillemets. Ce qui mène à une sorte d'autodévoration du système. Ouvrez les guillemets. Dans cette croissance rapide qui engendre inévitablement des tensions inflationnistes, une fraction non négligeable de la population ne parvient pas à soutenir le rythme. Ceux-là deviennent des laissés pour compte. Et ceux qui restent dans la couronne et parviennent au mode de vie proposé en modèle ne le font qu'au prix d'un effort qui les laisse diminuer. Si bien que la société se voit contrainte d'amortir les coûts sociaux de la croissance en redistribuant une part grandissante de la production intérieure brute au profit d'investissements sociaux, éducation, recherche, santé, définis avant tout pour servir la croissance. Fermez les guillemets. Or, les dépenses privées ou collectives destinées à faire face aux dysfonctions, plutôt qu'à accroître les satisfactions positives, ces dépenses de compensation sont additionnées dans toutes les comptabilités à l'élévation du niveau de vie, sans parler des commissions de drogue, d'alcool et de toutes les dépenses ostentatoires ou compensatoires, sans parler des budgets militaires, etc. Tout cela, c'est la croissance, donc c'est l'abondance. Le nombre croissant de catégories à charge pour la société, sans être une nuisance, la lutte contre la maladie et le recul de la mort constituant un des aspects de l'abondance, une des exigences de la consommation, hypothèque pourtant de plus en plus lourdement le processus lui-même. À la limite, dit Bourgeois Pichat, ouvrez les guillemets, on pourrait imaginer que la population dont l'activité est consacrée à maintenir le pays en bonne santé devienne plus importante que la population effectivement engagée dans la production. Fermez les guillemets. Bref, partout on touche à un point où la dynamique de la croissance et de l'abondance devient circulaire et tourne sur elle-même. Où de plus en plus, le système s'épuise dans sa reproduction. Un seuil de patinage où tout le surcroît de productivité passe à entretenir les conditions de survie du système. Le seul résultat objectif est alors la croissance cancéreuse des chiffres et des bilans, mais pour l'essentiel, on revient proprement au stade primitif, qui est celui de la pénurie absolue, de l'animal ou de l'indigène, dont toutes les forces s'épuisent à survivre. Ou encore de ceux, selon Domal, qui plantent des pommes de terre pour pouvoir manger des pommes de terre pour pouvoir de nouveau planter des pommes de terre, etc. Fermez les guillemets. Or, un système est inefficace quand son coût est égal ou supérieur à son rendement. Nous n'en sommes pas là, mais nous voyons se profiler à travers les nuisances et les correctifs sociaux et techniques à ces nuisances une tendance générale à un fonctionnement interne tentaculaire du système. Les consommations dysfonctionnelles, individuelles ou collectives, augmentant plus vite que les consommations fonctionnelles. Le système, au fond, se parasite lui-même. La comptabilisation de la croissance ou la mystique du PNB. Nous parlons là du plus extraordinaire bluff collectif des sociétés modernes, d'une opération de magie blanche sur les chiffres qui cache en réalité une magie noire d'envoûtement collectif. Nous parlons de la gymnastique absurde des illusions comptables, des comptabilités nationales. Rien n'entre là que des facteurs visibles et mesurables selon les critères de la rationalité économique. Tel est le principe de cette magie. À ce titre, n'y entre ni le travail domestique des femmes, ni la recherche, ni la culture. Par contre, peuvent y figurer certaines choses qui n'ont rien à y voir, par le seul fait qu'elles sont mesurables. De plus, ces comptabilités ont ceci de commun avec le rêve, qu'elles ne connaissent pas le signe négatif et qu'elles additionnent tout, nuisances et éléments positifs, dans l'illogisme le plus total, mais pas du tout innocent. Les économistes additionnent la valeur de tous les produits et services de tous les genres. Aucune distinction entre services publics et services privés. Les nuisances et les palliatifs y figurent au même titre que la production de biens objectivement utiles. Ouvrez les guillemets. La production d'alcool, de comics, de dentifrices, etc., de fusées nucléaires y éponge l'absence d'école, de route, de piscine. Galbraith. Les aspects déficitaires, les dégradations, l'obsolescence n'y figurent pas. S'ils y figurent, c'est positivement. Ainsi, les prix de transfert au travail sont comptabilisés comme dépenses de consommation. C'est l'aboutissement chiffré logique de la finalité magique de la production pour elle-même. Toute chose produite est sacralisée par le fait même de l'être. Toute chose produite est positive. Toute chose mesurable est positive. la baisse de la luminosité de l'air à Paris de 30% en 50 ans est résiduelle et inexistante aux yeux des comptables. Mais si elle résulte en une des plus grandes dépenses d'énergie électrique, d'ampoules, de lunettes, etc., alors elle existe, et du même coup, elle existe comme surcroît de production et de richesse sociale. Toute atteinte restrictive ou sélective aux principes sacrés de production et de la croissance provoquerait l'horreur du sacrilège. Obsession collective consignée dans les livres de comptes, la productivité a d'abord la fonction sociale d'un mythe, et pour alimenter ce mythe, tout est bon, même l'inversion de réalité objective qui contredisent en chiffres qui le sanctionnent. Mais il y a peut-être là, dans cette algèbre mystique des comptabilités, une vérité profonde. La vérité du système économico-politique des sociétés de croissance. Que le positif et le négatif soient additionnés pêle-mêle nous semble paradoxal. Mais c'est peut-être tout simplement logique. Car la vérité, c'est peut-être que ce sont les biens négatifs, les nuisances compensées, les coûts internes de fonctionnement, les frais sociaux d'endorégulation dysfonctionnelle, les secteurs annexes de prodigalité inutile qui jouent dans cet ensemble le rôle dynamique de locomotive économique. Cette vérité latente du système est bien sûr cachée par les chiffres, dont l'addition magique voile cette circularité admirable du positif et du négatif, vente d'alcool et construction d'hôpitaux, etc. Ce qui expliquerait l'impossibilité, malgré tous les efforts, à tous les niveaux, d'extirper ces aspects négatifs. Le système en vit et ne saurait s'en défaire. Nous retrouverons ce problème à propos de la pauvreté, ce volant de pauvreté que les sociétés de croissance traînent derrière elles, comme leur tare, et qui est de fait une de leurs nuisances les plus graves. Il faut admettre l'hypothèse que toutes ces nuisances entrent quelque part comme facteurs positifs, comme facteurs continuels de la croissance, comme relance de la production et de la consommation. Au XVIIIe siècle, Mandeville, dans la fable des abeilles, soutenait la théorie, sacrilège et libertine à son époque déjà, que c'est par ses vices et non par ses vertus qu'une société s'équilibre, que la paix sociale, le progrès et le bonheur des hommes s'obtiennent par l'immoralité instinctive qui leur fait enfreindre continuellement les règles. Il parlait bien sûr de morale, mais nous pouvons l'entendre au sens social et économique. C'est de ces tares cachées, de ces équilibres, de ces nuisances, de ces vices au regard d'un système rationnel que le système réel précisément prospère. On a taxé Mandeville de cynisme, c'est l'ordre social, l'ordre de production qui est objectivement cynique. Le gaspillage. On sait combien l'abondance des sociétés riches est liée au gaspillage, puisqu'on a pu parler de civilisation de la poubelle, et même envisager de faire une sociologie de la poubelle. Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es. Mais la statistique du gâchis et du détritus n'est pas intéressante en soi. Elle n'est qu'un signe redondant du volume des biens offerts et de leur profusion. On ne comprend ni le gaspillage ni ses fonctions si on n'y voit que le déchet résiduel de ce qui est fait pour être consommé et qui ne l'est pas. Encore une fois, nous avons là une définition simpliste de la consommation, définition morale fondée sur l'utilité impérative des biens. Et tous nos moralistes de partir en guerre contre la dilapidation des richesses, depuis l'individu privé qui ne respecte plus cette sorte de loi morale interne à l'objet qui serait sa valeur d'usage et sa durée, et qui jette ses biens ou en change selon les caprices du standing ou de la mode, etc., jusqu'au gaspillage à l'échelon national et international, et même jusqu'à un gaspillage en quelque sorte planétaire, qui serait le fait de l'espèce humaine dans son économie générale et son exploitation des richesses naturelles. Bref, le gaspillage est toujours considéré comme une sorte de folie, de démence, de dysfonction de l'instinct, qui fait brûler à l'homme ses réserves et compromettre par une pratique irrationnelle ses conditions de survie. Cette vision trahit du moins le fait que nous ne sommes pas dans une ère d'abondance réelle, que chaque individu, groupe ou société actuelle, et même l'espèce en tant que telle, est placé sous le signe de la rareté. Or, ce sont en général les mêmes qui soutiennent le mythe de l'irrésistible avènement de l'abondance et qui déplorent le gaspillage lié au spectre menaçant de la rareté. De toute façon, toute cette vision morale du gaspillage comme dysfonction est à reprendre selon une analyse sociologique qui ferait apparaître ses véritables fonctions. Toutes les sociétés ont toujours gaspillé, dilapidé, dépensé et consommé au-delà du strict nécessaire, pour la simple raison que c'est dans la consommation d'un excédent, d'un superflu que l'individu comme société se sente non seulement exister, mais vivre. cette consommation peut aller jusqu'à la consumation, la destruction pure et simple, qui prend alors une fonction sociale spécifique. Ainsi, dans le potlatch, c'est la destruction compétitive de biens précieux qui scelle l'organisation sociale. Les Kwakiutl sacrifient des couvertures, des canoës, des cuivres blasonnés qu'ils brûlent ou jettent à la mer pour soutenir leur rang, pour affirmer leur valeur. C'est encore par la prodigalité inutile qu'à travers toutes les époques, les classes aristocratiques ont affirmé leur prééminence. La notion d'utilité, d'origine rationaliste et économiste, est donc à revoir selon une logique sociale beaucoup plus générale où le gaspillage, loin d'être un résidu irrationnel, prend une fonction positive, relayant l'utilité rationnelle dans une fonctionnalité sociale supérieure et même, à la limite, apparaît comme la fonction essentielle. Le surcroît de dépenses, le superflu, l'inutilité rituelle de la dépense pour rien, devenant le lieu de production des valeurs, des différences et du sens, tant sur le plan individuel que sur le plan social. Dans cette perspective, se profile une définition de la consommation comme consumation, c'est-à-dire comme gaspillage productif. Perspective inverse de celle de l'économie, fondée sur la nécessité, l'accumulation et le calcul, où au contraire le superflu précède le nécessaire, où la dépense précède en valeur, sinon dans le temps, l'accumulation et l'appropriation. Ouvrez les guillemets. Ah, ne discutez pas besoin. Le dernier des mendiants a encore un rien de superflu dans la plus misérable chose. Réduisez la nature aux besoins de nature et l'homme est une bête. Sa vie ne vaut pas plus. Comprends-tu qu'il nous faut un rien de trop pour être ? Dit Shakespeare dans Le Roi Lear. Autrement dit, un des problèmes fondamentaux posés par la consommation est celui-ci. Les êtres s'organisent-ils en fonction de leur survie ou en fonction du sens, individuel ou collectif, qu'ils donnent à leur vie ? Or, cette valeur d'être, cette valeur structurelle peut impliquer le sacrifice des valeurs économiques. Et ce problème n'est pas métaphysique. Il est au centre de la consommation et peut se traduire ainsi. L'abondance n'a-t-elle au fond de sens que dans le gaspillage ? Doit-on définir l'abondance sous le signe de la prévision et de la provision, comme le fait Valéry ? Ouvrez les guillemets. Contempler des monceaux de nourriture durable, n'est-ce point voir du temps de reste et des actes épargnés ? Une caisse de biscuits, c'est tout un mois de paresse et de vie. Des pots de viande confite et des couffes de fibres bourrées de graines et de noix sont un trésor de quiétude. Tout un hiver tranquille en puissance dans leur parfum. Robinson humait la présence de l'avenir dans la senteur des caissons et des coffres de sa cambuse. Son trésor dégageait de l'oisiveté. Il en émanait de la durée, comme il émane de certains métaux une chaleur absolue. L'humanité ne s'est lentement élevée que sur le tas de ce qui dure. Prévision, provision, peu à peu nous ont détachés de la rigueur de nos nécessités animales et du mot à mot de nos besoins. La nature le suggérait, elle a fait que nous portions avec nous de quoi résister quelque peu à l'inconstance des événements. La graisse qui est sur nos membres, la mémoire qui se tient toute prête dans l'épaisseur de nos âmes, ce sont des modèles de ressources réservées que notre industrie a imitées. Fermez les guillemets. Tel est le principe économique auquel s'oppose la vision nietzschéenne, et celle de Bataille, du vivant qui veut avant tout dépenser sa force. Ouvrez les guillemets. Les physiologistes devraient réfléchir avant de poser l'instinct de conservation comme l'instinct cardinal de tout être organique. Le vivant veut avant tout dépenser sa force. La conservation n'en est qu'une conséquence entre autres. Gare au principe téléologique superflu. Et tout le concept de l'instinct de conservation est un de ces principes. La lutte pour l'existence, cette formule désigne un état d'exception. La règle est bien plutôt la lutte pour la puissance, l'ambition d'avoir plus et mieux et plus vite et plus souvent. Nietzsche, la volonté de puissance. Ce quelque chose en plus, par où s'affirme la valeur, peut devenir le quelque chose en propre. Cette loi de la valeur symbolique qui fait que l'essentiel est toujours au-delà de l'indispensable s'illustre au mieux dans la dépense, dans la perte, mais elle peut aussi se vérifier dans l'appropriation, pourvu que celle-ci est la fonction différentielle du surcroît, du quelque chose en plus. Témoin l'exemple soviétique. Ouvriers, cadres, ingénieurs, membres du parti ont un appartement qui ne leur appartient pas. Loué ou en viager, logement de fonction attaché au statut social de travailleur, de citoyen actif, non à la personne privée. Ce bien est un service social, non un patrimoine, encore moins un bien de consommation. Au contraire, l'habitat secondaire, la datcha à la campagne, avec le jardin, ceci leur appartient. Ce bien n'est pas viager ni révocable, il peut leur survivre et devenir héréditaire. D'où l'engouement individualiste qui s'y attache. Tous les efforts s'orientent vers l'acquisition de cette datcha, à défaut de l'automobile qui joue bien un peu le même rôle de résidence secondaire en Occident. Valeur de prestige et valeur symbolique de cette datcha, c'est le « quelque chose en plus ». D'une certaine façon, il en est de même dans l'abondance. Pour que celle-ci devienne une valeur, il faut qu'il y ait non pas assez, mais trop. Il faut que soit maintenue et manifestée une différence significative entre le nécessaire et le superflu. C'est la fonction du gaspillage à tous les niveaux. C'est dire qu'il est illusoire de vouloir le résorber, de prétendre l'éliminer, car c'est lui, de quelque façon, qui oriente tout le système. Pas plus que le gadget d'ailleurs, où s'arrête l'utile, où commence l'inutile, on ne peut le définir ni le circonscrire. Toute production et dépense au-delà de la stricte survie peut être taxée de gaspillage. Pas seulement la mode vestimentaire et la poubelle alimentaire, mais les sur-gadgets militaires, la bombe, le suréquipement agricole de certains paysans américains et les industriels qui renouvellent leur panoplie de machines tous les 2 ans au lieu de les amortir. Non seulement la consommation, mais la production obéit elle aussi largement au processus ostentatoire, sans compter la politique. Les investissements rentables et les investissements somptuaires sont partout inextricablement liés. Un industriel ayant investi 1000 dollars en publicité déclarait « Je sais qu'une moitié est perdue, mais je ne sais pas laquelle. » Il en est toujours ainsi dans une économie complexe. On ne saurait isoler l'utile et vouloir soustraire le superflu. Au superflu, la moitié perdue économiquement n'est peut-être pas celle qui prend le moins de valeur, à long terme ou d'une façon plus subtile, dans sa déperdition même. C'est ainsi qu'il faut lire l'immense gaspillage de nos sociétés d'abondance. C'est lui qui défie la rareté et qui signifie contradictoirement l'abondance. C'est lui, dans son principe et non l'utilité, qui est le schème psychologique, sociologique et économique directeur de l'abondance. Que l'emballage vert puisse se jeter, n'est-ce pas déjà cela, l'âge d'or ? Un des grands thèmes de la culture de masse, analysé par Reisman et Morin, illustre ceci sur le mode épique. C'est celui des héros de la consommation. À l'Ouest au moins, les biographies exaltées des héros de la production le cèdent aujourd'hui partout à celles des héros de la consommation. Les grandes vies exemplaires de self-made men et de fondateurs, des pionniers, d'explorateurs et de colons, qui succédaient à celles des saints et des hommes historiques, sont devenues celles des vedettes de cinéma, du sport et du jeu, de quelques princes dorés ou de féodaux internationaux, bref, de grands gaspilleurs. Même si l'impératif impose souvent à rebours de les montrer dans leur simplicité quotidienne, faisant leur marché, etc. Tous ces grands dinosaures qui défraient la chronique des magazines de télévision, c'est toujours leur vie par excès et la virtualité de monstrueuses dépenses qui est exaltée en eux. Leur qualité surhumaine, c'est leur parfum de potlatch. Ainsi remplissent-ils une fonction sociale bien précise, celle de la dépense somptuaire, inutile, démesurée. Ils remplissent cette fonction par procuration pour tout le corps social, tels les rois, les héros, les prêtres ou les grands parvenus des époques antérieures. Comme ceux-ci d'ailleurs, ils ne sont jamais si grands que si, tel James Dean, ils payent cette dignité de leur vie. La différence essentielle est que dans notre système actuel, cette dilapidation spectaculaire n'a plus la signification symbolique et collective déterminante qu'elle pouvait prendre dans la fête et le potlatch primitif. Cette consommation prestigieuse s'est, elle aussi, personnalisée et masse-médiatisée. Elle a pour fonction la relance économique de la consommation de masse, qui se définit par rapport à elle comme subculture laborieuse. La caricature de la robe somptueuse que la vedette ne porte qu'une seule soirée, c'est le slip éphémère qui, 80% viscose et 20% acrylique non tissé, se met le matin, se jette le soir et ne se lave pas. Surtout ce gaspillage de luxe, ce gaspillage sublime mis en avant par les masses médias ne fait que doubler, sur le plan culturel, un gaspillage beaucoup plus fondamental et systématique, intégré, lui, directement au processus économique. Un gaspillage fonctionnel et bureaucratique, produit par la production en même temps que les biens matériels, incorporé à eux et donc obligatoirement consommé comme une des qualités et des dimensions de l'objet de consommation. Leur fragilité, leur obsolescence calculée, leur condamnation à l'éphémérité. Ce qui est produit aujourd'hui ne l'est pas en fonction de sa valeur d'usage ou de sa durée possible, mais au contraire en fonction de sa mort, dont l'accélération n'a d'égal que celle de l'inflation des prix. Cela seul suffirait à remettre en question les postulats rationalistes de toute la science économique sur l'utilité, les besoins, etc. Or, on sait que l'ordre de production ne survit qu'au prix de cette extermination, de ce suicide calculé perpétuel du parc des objets, que cette opération repose sur le sabotage technologique ou sur la désuétude organisée sous le signe de la mode. La publicité réalise ce prodige d'un budget considérable consumé à seule fin non pas d'ajouter, mais d'ôter à la valeur d'usage des objets, d'ôter à leur valeur temps en les assujettissant à leur valeur mode et au renouvellement accéléré. Ne parlons pas des richesses sociales colossales sacrifiées dans les budgets de guerre et autres dépenses étatiques et bureaucratiques de prestige. Cette sorte de prodigalité n'a plus rien du tout d'un parfum symbolique de potlatch. Elle est la solution désespérée, mais vitale, d'un système économico-politique en perdition. Cette consommation au plus haut niveau fait partie de la société de consommation au même titre que la fringale tétanique d'objets chez les particuliers. Les deux assurent conjointement la reproduction de l'ordre de production. Et il faut distinguer le gaspillage individuel ou collectif comme acte symbolique de dépense, comme rituel de fête et forme exaltée de la socialisation, de la caricature funèbre et bureaucratique dans nos sociétés où la consommation gaspilleuse est devenue une obligation quotidienne, une institution forcée et souvent inconsciente comme l'impôt indirect, une participation à froid aux contraintes de l'ordre économique. Cassez votre voiture, l'assurance fera le reste. La voiture est sans doute d'ailleurs l'un des foyers privilégiés du gaspillage quotidien et, à long terme, privé et collectif. Non seulement par sa valeur d'usage systématiquement réduite, par son coefficient de prestige et de mode systématiquement renforcé, par les sommes démesurées qui y sont investies, mais plus profondément, sans doute, par le sacrifice collectif spectaculaire de tôle, de mécanique et de vie humaine que représente l'accident. Gigantesque happening, le plus beau de la société de consommation, par où celle-ci se donne, dans la destruction rituelle de matière et de vie, la preuve de sa surabondance. Preuve inverse, mais bien plus efficace pour l'imagination profonde que la preuve directe par l'accumulation. La société de consommation a besoin de ces objets pour être, et plus précisément, elle a besoin de les détruire. L'usage des objets ne mène qu'à leur déperdition lente. La valeur créée est beaucoup plus intense dans leur déperdition violente. C'est pourquoi la destruction reste l'alternative fondamentale à la production. La consommation n'est qu'un terme intermédiaire entre les deux. Il y a une tendance profonde dans la consommation à se dépasser, à se transfigurer dans la destruction. C'est là qu'elle prend son sens. La plupart du temps, dans la quotidienneté actuelle, elle reste subordonnée, comme consommativité dirigée, à l'ordre de productivité. C'est pourquoi la plupart du temps, les objets sont là par défaut, et c'est pourquoi leur abondance même signifie paradoxalement la pénurie. Le stock, c'est la redondance du manque et signe de l'angoisse. Dans la destruction seule, les objets sont là par excès et témoignent, dans leur disparition, de la richesse. Il est en tout cas évident que la destruction soit sous sa forme violente et symbolique, apting, potlatch, acting out destructif, individuel ou collectif, soit sous sa forme de destructivité systématique et institutionnelle, est vouée à devenir une des fonctions prépondérantes de la société post-industrielle.